Alléluia. Bonjour. Mon cœur est vraiment dans la joie d'être ici parce que pour ceux qui me voient pour la première fois et qui ne m'a jamais entendu prêcher, levez la main. Waouh, ça fait du monde. Tu vois, je t'avais bien dit que au deuxième culte. Alors, mon nom est Jonathan Valbon et je suis tellement heureux d'être avec vous ici ce matin. Et j'ai avec moi la plus belle des femmes qui m'accompagne et celle qui est un jour, Elisa, si tu veux bien te lever, s'il te plaît, voilà, mon épouse qui m'accompagne avec moi. Waouh, Créteil, ça a changé, hein. Je suis tellement content, en bien, ça a changé en bien et je suis tellement content d'être ici là avec vous et mon cœur est toujours touché de passer ces temps avec vous. Est-ce que ce matin, vous voulez recevoir la parole de Dieu? Est-ce que vous la voulez? Alors qu'on était dans la louange tout à l'heure, je pensais à ce passage de la Bible où Jésus vient dans une contrée et la Bible nous dit qu'il ne put faire là beaucoup de miracles. Non pas que Jésus ne veuille pas faire de miracles. Toute la puissance de Dieu était manifestée dans Jésus. Sauf que le miraculeux est souvent conditionnel à notre capacité de recevoir. Ça veut dire, mes amis, ce matin, ouvrez grand vos cœurs, parce que Dieu veut vous dire quelque chose. Alléluia! Je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir vos Bibles avec moi à Exode 3, verset 7. Sans plus tarder, Exode 3, verset 7. Et je le lis pour vous dans la version Louis II. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Juste pour vous remettre un petit peu le contexte ici, c'est Jésus, Dieu qui parle et qui s'adresse à Moïse ou qui lui lance l'appel. Alors que Moïse a fui l'Égypte, retrace un petit peu le contexte, alors que Moïse a fui l'Égypte, qu'il a oublié les traumatismes de son peuple et qu'il se trouve loin de son peuple, qu'il a presque oublié tout ce qui se passait là-bas. Dieu, lui, n'a pas oublié. Et voici ce qu'il dit en ces termes. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous viendrez adorer Dieu sur cette montagne. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce matin est « Écouter et croire Dieu ». Je vais vous parler de la foi. Ce qui est toujours touchant dans la Bible, mais vous le voyez à chaque fois. Lorsque Dieu va faire quelque chose, il le dit avant. Il le dit et ensuite il le fait. Dieu n'est pas simplement à dire quelque chose et à oublier ce qu'il a dit. Non. Il le dit, il dit, je vais faire quelque chose. Voici, mon cœur a décidé de faire quelque chose. Je te le dis, je te l'annonce et je vais le faire. Et la raison pour laquelle il agit ainsi, c'est parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Que lorsque les choses s'accomplissent, on est tellement époustouflé, tellement ébahi, tellement impressionné qu'on dit « ça là, ça vient de Dieu ». Mais non seulement que ça vient de Dieu, parce qu'on sait qu'il l'a dit. Il l'a dit, il nous l'avait dit, on l'avait cru. Et lorsque nous mettons notre foi et notre confiance en Dieu, il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu comme rien d'autre. Il prend plaisir lorsque nous croyons en ses promesses. Dieu aime lorsque vous lui faites confiance. Quand on regarde dans la Bible, Jésus a toujours été émerveillé par la foi. La foi, c'est quelque chose qui l'impressionnait. Et la puissance de Dieu est relâchée lorsque nous croyons. Mes amis, sauf que lorsque Dieu vous dit quelque chose, lorsque Dieu vous fait une promesse, il y a toujours un facteur temps. Quand Dieu vous dit quelque chose le jour J, nous, on croit que ça va s'accomplir la semaine prochaine. Combien comprennent de quoi je parle? Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quand Dieu nous dit quelque chose, il y a vraiment un facteur temps. Et dans ce facteur temps, il y a une saisonnalité où beaucoup de choses vont s'accomplir. Et ça devient le terrain, le champ d'action, le terrain de jeu dans lequel le diable va s'acharner, non pas contre la promesse de Dieu, parce qu'il sait que si Dieu a dit quelque chose, il le fera. Mais il va s'acharner à vous faire douter, vous, de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? C'est bon, c'est clair jusqu'à maintenant? Je crois que des fois que le diable, il croit plus en Dieu que nous. Quand il sait que Dieu a dit quelque chose, si Dieu l'a dit, qui pourra se mettre contre? Non mais franchement, vous êtes des gens résolus dans votre maison, si vous avez décidé de faire quelque chose et vous l'avez décidé résolument, qui c'est qui va vous empêcher de faire ce que vous voulez dans votre maison? Vrai ou pas vrai? Alors imaginez lorsque Dieu, du haut des cieux, dans son trône céleste, décide quelque chose. Qui est-ce qui va dire contre ça? La Bible nous dit, il dit et la chose arrive. Alléluia. Wouh! Ça, c'est Dieu. Dieu, quand il dit quelque chose, il n'est pas concentré sur un problème. Il est la solution. Donc, il vous le dit, mais c'est afin de faire grandir votre foi. Sauf que Satan sait, à partir du moment où Dieu a fait une promesse, il lui reste peu de temps. Dites avec moi, peu de temps. Peu de temps pour venir vous décourager, vous assaillir et vous mettre le doute afin que vous fassiez des actions dangereuses qui peut-être vont retarder la promesse de Dieu. Alors souvent, il nous met le doute, il vous dit vous n'êtes pas digne de vivre de la promesse de Dieu, ou souvent c'est impossible, souvent c'est impossible, ça se passera jamais comme ça, ça n'arrivera jamais. Dans ce facteur temps, il y a tellement de choses, il y a comme une sorte de guerre psychologique qui se joue. Il y a comme tout se passe et se joue sur nos pensées. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes, en fait, où qu'ils exercent la foi. La foi, c'est de croire dans ce que Dieu a dit est vrai et il va l'accomplir. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui exercent la foi comme si tout dépendait d'eux. C'est-à-dire qu'ils exercent la foi en disant « J'essaie de mettre ma foi en Dieu, mais il y a des... » Je ne sais pas pour vous, mais il y a des semaines où on croit vraiment ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il y a des semaines où on croit, il y a des semaines où on ne croit pas. Vous êtes là? Il y a des semaines où moi, quand Dieu me dit quelque chose, je le crois. Je crois que ça va être vrai, je crois que ça va s'accomplir. Sauf qu'il y a des jours où la grisaille spirituelle s'installe et je ne crois plus du tout aux promesses de Dieu. C'est une chose d'entendre un bon message le dimanche matin. Quand le prédicateur prêche, on est excité, on y croit, on a envie de sortir et déplacer les montagnes. Sauf que va falloir retourner dans la vallée, va falloir retourner la semaine au boulot, va falloir retourner avec les gens, les collègues de travail parfois désagréables. Est-ce que ça vous arrive? Et là, c'est dans ce terrain particulièrement hostile où Satan vient et dit « Mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu va faire ça avec toi ?» Et toi, tu pleures, tu dis « Oui, je le crois. » Et là, il y a « Mais non, t'es pas digne, t'es pas ceci, t'es pas cela. » Et Satan éprouve votre foi. Mais j'aimerais vous dire ceci, mes amis. La promesse de Dieu dépend pas tellement de vous. Lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose que vous le croyez ou vous le croyez pas, il va le faire quand même. Alléluia! Ça veut dire que même si vous manquez de foi, Dieu peut faire quelque chose. Mais Dieu veut faire grandir votre foi. Est-ce que vous voulez grandir dans la foi? Grandir votre foi. Alors en fait, grandir notre foi, comment... Ce matin, je priais dans mon cœur et je disais, Seigneur, comment est-ce que je pourrais donner une parole à encourager à quelqu'un qui manque de foi? Et la seule chose que je dirais, c'est que arrêtez de vous regarder à vous et essayez de regarder à Dieu. Parce que si vous vous regardez à vous, vous crierez toujours « Seigneur, moi je manque de foi, j'arrive pas à croire ces choses, c'est impossible. » Et plein de fois, notre nature humaine charnelle ne croit pas Dieu. Sauf que, arrêtez de vous considérer vos doutes, vos impressions, je me sens pas bien, vos émotions, mais placez votre espérance en Dieu. Alléluia. Essayez juste de regarder en lui. J'aimerais vous dire ceci, c'est que lorsque Dieu vous fait une promesse, il n'a pas besoin d'un coup de main pour pouvoir l'accomplir. Il l'a dit et il va le faire. Et dans Romains 4, verset 16, je le lis, c'est Abraham qui est l'auteur de la foi. Abraham, il est mentionné comme le père de la foi. C'est quelqu'un qui nous inspire. Voici ce que Romains 4, 16 nous dit. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu avait dit, ta descendance sera nombreuse. Et il considéra pas son corps comme étant mort, il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah ne pouvait plus donner la vie et sa foi faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en douce la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que ce que Dieu a promis, il a la capacité de l'accomplir. Alléluia! Wouh! Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Mes amis, Abraham avait une mamie de 90 ans à côté de lui. Est-ce que vous vous rendez compte, des fois on lit ça un peu poétiquement, oh c'est beau, mais est-ce que vous vous rendez compte à 100 ans, son corps, non mais vous comprenez de quoi je parle, son corps flétrine et il ne douta pas. Moi, j'aurais vraiment dû, comment a-t-il fait? Mais j'aimerais dire ceci, souvent c'est que la foi est liée à la promesse de Dieu. La foi, écoutez bien, la foi est liée et contractée à une promesse, à quelque chose que Dieu a dit. Est-ce que vous allez le croire ou est-ce que vous n'allez pas le croire? Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, et je vous parle et je mets mes yeux dans les vôtres, qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour votre couple? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour votre famille? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour votre célibat? Ah, le célibat, tiens, parlons-en. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune célibataire, j'avais tellement... Des matins, je me levais, je croyais que Dieu allait pourvoir à mes besoins et allait me promettre et allait me pourvoir une femme extraordinaire et merveilleuse. Et d'autres journées, je ne le croyais absolument pas. Je ne croyais pas, je disais, Seigneur, je suis pas assez grand, je suis pas assez beau, je perds mes cheveux, j'ai pris des kilos, jamais aucune femme voudra de moi. Et pourtant, il a fait un miracle. Alléluia. Mes amis, si vous n'entendez pas Dieu vous parler, entourez-vous de gens qui vont l'entendre pour vous. Souvent, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Pasteur, j'entends pas Dieu me parler, je sais pas ce que Dieu me dire. » Mais j'aimerais vous dire que Dieu veut vous parler à vous personnellement. Alors, beaucoup, il y a des personnes, des fois, ils n'entendent pas Dieu et ils veulent que ce soit le pasteur qui l'entende pour eux. Non, pas à Créteil, bien sûr. À Créteil, les gens ont tous une relation avec Dieu, mais dans d'autres églises, ça arrive. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vendre ma maison? Mais qu'est-ce qu'il en sait, le pasteur? Franchement. Pasteur, est-ce que je dois placer cet argent? Est-ce que je dois partir et quitter le pays, faire des études en Italie? Qu'est-ce qu'il en sait? Oui, mais j'ai peur, pasteur, je sais pas si j'aurai assez d'argent. Mais il en sait rien. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on devient un peu comme des bébés spirituels où on n'entend pas Dieu, mais on va toujours aller voir le pasteur pour... consulte Dieu et entends Dieu pour moi et viens me donner la réponse à moi. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Et là, ça se justifie. Moi, souvent, je parlais... À chaque fois que je voyais quelqu'un dans mon bureau qui venait et qui me parlait d'une situation, souvent, je pose la question, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Je viens vers vous pour le savoir. Ben, j'en sais rien. À moins que Dieu me parle, je ne vais pas savoir ce qui est sur ta situation. Prions ensemble. Mais tu as besoin d'une parole et d'une révélation de Dieu pour ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu devrait toujours parler aux autres de ce qui se passe pour votre vie personnelle à vous? Vous êtes là? Oui, mais alors, mais qu'est-ce qu'on se dit? Oui, mais c'est normal, Dieu parle au travers des pasteurs, des prophètes, c'est normal, il a oint des hommes, c'est au travers d'eux qu'il parle. Oui, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a donné pleinement accès à la présence du Père et il dit « Mes brebis entendent et connaissent ma voix. » Alléluia. Dieu veut vous parler, mes amis. Dieu veut vous parler à vous personnellement. Qu'est-ce que Dieu dit sur votre vie à vous? Si vous venez là individuellement, chaque personne, qu'est-ce que Dieu dit à toi? Est-ce que vous entendez Dieu? Quelle est la promesse qu'il vous fait à vous personnellement? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles sont les choses qu'il vous dit dans votre cœur? Alors souvent, quand Dieu passe par quelqu'un d'autre, il est possible que mon oreille soit fermée à sa voix. Il est possible que Dieu me répète quelque chose qu'il m'a déjà dit. Et il est possible qu'il me répète quelque chose que je n'ai pas voulu entendre. Et souvent, Dieu passe au travers d'intermédiaires. Alors, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui disent « Oui, mais j'ai peur de me tromper. Si Dieu me parle, j'ai peur de me tromper. » Mais j'aimerais vous dire, vous avez le droit de vous tromper. Bon, peut-être pas sur le mariage, hein. Faites gaffe, vaut mieux pas se tromper. Mais je préfère mieux quelqu'un qui se trompe parce qu'il a cru entendre Dieu, lui parler et qu'il a mal compris, que quelqu'un à qui Dieu n'a pas parlé et qui se met à faire des choses que Dieu ne lui a pas demandé. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut vous parler. Vraiment. Vous savez, dans ma cuisine, si vous venez, il y a beaucoup de bruit. Mais lorsque tout est calme, on peut entendre le frigo. C'est une très simple illustration, mais j'aimerais vous dire que dans votre vie, tous les jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais si vous arrêtez tout et vous faites le calme, vous allez entendre Dieu vous parler. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire pour vous personnellement? Alors maintenant, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est de croire Dieu dans les difficultés. On a vu que la foi est liée à une promesse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je vais sortir mon peuple d'Égypte. Il le dit et il va le faire. Sauf que, on croit bien la promesse jusqu'au moment où tout se complique. Et vous savez ce qui s'est passé? Nombre 9, verset 17, quand Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne le conduisait pas par la route des Philistins, bien qu'elle soit la plus directe. Car il s'était dit, s'il devait affronter les combats, il pourrait le regretter leur départ et retourner en Égypte. Donc il leur fit faire un détour par le chemin du désert. Et à Nombre, verset 9, voici ce qu'il dit. Le jour où l'on érigea le tabernacle qui sert de tente aux tablettes de l'acte de l'Alliance dans le désert, la nuée le couvrit le soir. Et cette nuée du tabernacle devint comme du feu et elle resta là jusqu'au matin. Il en fut continuellement ainsi. Le jour, la nuée couvrait le tabernacle et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Et à chaque fois que la nuée se levait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp. Et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur campement. Ainsi, c'est au signal de l'Éternel que les Israélites levaient le camp et c'est à son signal qu'ils le réinstallaient. C'est toujours au signal de l'Éternel qui dressait et qui levait le camp. Regardez-moi par ici. C'est l'histoire d'un peuple qui pendant 400 ans a vécu traumatisé en esclavage. Ils ont une culture d'esclaves. Ils n'arrivent pas à être conquérants. Et Dieu voulait faire de ce peuple un peuple fort, un peuple conquérant. Et la Bible nous dit que ces choses leur sont arrivées à titre d'exemple pour nous. Dieu veut que vous soyez fort, conquérant dans l'adversité, dans les difficultés. Et pour ça, Dieu avait une stratégie, il avait un plan, il avait un moyen. La première chose, c'est qu'il les a amenés au désert. Vous savez, au désert, dans un endroit où il fait chaud, dans un endroit complètement sec et aride. Et la seule chose qu'ils avaient pour s'en sortir dans le désert, c'était un nuage dans le ciel. Et Dieu a été le seul Dieu sur terre à être capable de diriger 4 millions de personnes pour certains historiens bibliques qui estiment que le peuple d'Israël était entre 1,5 million et 4 millions de personnes. Toute cette populace, Dieu les a dirigés dans le désert avec comme seul GPS un nuage dans le ciel. Wouh ! Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et à chaque fois que la nuée s'arrêtait, il devait s'arrêter, il devait établir un campement. Et ça représente un petit peu toutes les saisons, la saisonnalité dans laquelle Dieu veut que nous bougions, Dieu veut que nous allions d'endroit à un autre. Et à chaque fois, cette dépendance, en fait, ce que Dieu a voulu leur apprendre, c'est que peu importe si vous êtes au désert, peu importe si vous êtes perdu, peu importe si vous ne savez plus là où vous êtes, la question que vous devez toujours vous poser est « Est-ce que Dieu est toujours là avec moi ?» Est-ce que Dieu est avec vous ? Est-ce que Dieu est là ? Et en fait, ce qui s'est passé, et voici, ça se complique un petit peu les choses, Et quand Dieu veut vous éduquer la foi, il le fait d'une certaine façon. Et vous devez comprendre cette pédagogie de Dieu. Exode 15, les Écritures disent, toute la communauté d'Israël partit d'Élim pour arriver au désert de Sin. Et le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte, toute la communauté d'Israélites murmura dans le désert contre Moïse. Vous nous avez fait venir ici pour mourir au désert. Vous savez ce qui s'est passé ? Ils sont arrivés au désert. Imaginez, regardez. Juste pour le graphique là. On prend tous ensemble l'avion là, maintenant. Et on part au Sahara, dans un endroit complètement désert, avec ta femme, avec tes enfants. Et on va, et on y va avec Yvan et moi et ma femme. On y va tous ensemble. Et avec vos enfants. Et on ne sait pas de quoi on va bouffer. Qui c'est qui veut partir ? C'est pas du tout programmé. Mais par contre, vous savez quoi ? On va être dans un désert et on va suivre Dieu. C'est ça qu'ils ont vécu. Pas d'eau. Et c'est comme si, pour toute chose, ils devaient dépendre de Dieu. Sauf que quand ils sont arrivés dans le désert, il y en a quelques-uns, ils ont dit, c'est un piège ! Ils ont flippé. Non, mais même moi, j'aurais flippé. C'est un piège. Ils ont commencé à avoir peur. Ils étaient dans le pétrin. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Ils avaient peur. Ils avaient vraiment peur. Et ils se disent, on va mourir ici. Si on retourne en arrière, il y a les Égyptiens qui veulent nous découper. En face, il y a le désert. On est complètement perdu. On suit simplement un nuage dans le ciel. Ils ont commencé à en vouloir à Dieu. Ah, pourquoi Dieu ? Et puis si Dieu m'aimait tant, pourquoi est-ce qu'il programme ça ? Et puis si Dieu faisait ci, pourquoi cette situation ? Pourquoi ceci ? Vous savez quoi ? Dieu a voulu éduquer la confiance. Dites avec moi, confiance à son peuple. Regardez-moi. Vous êtes, pour des papas et des mamans, vous allez comprendre ça. Si je prends un enfant et qu'il y a une poutrelle bien haute, et que je veux lui apprendre, souvent même en tant que parent vous faites ce jeu, que je veux lui apprendre la confiance, que je veux lui dire « fais confiance à papa ». Alors je vais le prendre, je vais le mettre tout en haut de cette poutrelle, et là l'enfant, il sent le vide autour de lui, et il a peur. Alors il commence à pleurer, je me sens pas bien, et là on dit « fais confiance, t'inquiète pas, saute ». Alors au début, là, la première fois que vous le faites, il aime pas cette situation, vrai ou pas vrai ? Il a peur, il aime pas, il dit bon, mais, puis on le voit, il est hésitant. Mais toi, tu sais que t'es le père, jamais tu voudrais aller, vas-y, saute, et tu t'enlèves, voilà, hey, je t'avais dit, mon gamin, il fallait faire. Non, jamais tu ferais ça, tu l'aimes, c'est un toit miniature, là, jamais tu le laisserais tomber, tu vois, c'est ton fils, tu l'aimes. Mais tu veux lui apprendre, mon fils, faut que tu me fasses confiance. Faut que saute, papa il est là. Dieu veut vous apprendre et veut vous éduquer à lui faire confiance. Et c'est exactement son peuple chéri, comme son enfant. Il voulait leur apprendre la confiance. Alors il les a mis dans une situation dans le pétrin. Dieu les a piégés, du moins c'est comme ça que eux le vivaient. Mais Dieu avait un plan. Dieu, il voulait leur servir un barbecue tous les jours. Il voulait leur donner de l'eau qui sortait du rocher. Dieu avait tout prévu, sauf qu'eux ne le savaient pas. Et souvent, écoutez bien, Dieu va vous amener dans des saisons où vous ne voyez rien devant vous. Dieu veut que vous appreniez à lui faire confiance. Dieu les a bloqués dans une situation impossible, dans une sorte d'impasse, conduit au désert, dans les pires des problèmes, où ils ne pouvaient plus se sauver eux-mêmes, ni de la faim, ni de la mort. Ils avaient plus de solution. Et quand vous vous sentez, écoutez bien ceci, quand vous êtes dans un moment pénible, quand vous êtes dans une situation critique, quand vous êtes dans un moment, écoutez bien ceci, où vous ne pouvez plus rien faire par vous-même, c'est exactement là où Dieu vous veut. Oh ! C'est terrible ! Dieu veut vous amener à un moment, à un tel dépouillement de vous-même, où humainement, vous ne pouvez plus rien faire. C'est complètement impossible. C'est à ce moment-là où il vient. C'est John Bevere qui disait ceci. « Tant que c'est possible, tant que vos rêves, votre vision, votre avenir est possible et réalisable par vous-même, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que ce soit complètement impossible pour que Dieu vienne manifester sa gloire afin que toute la gloire lui en revienne. Alléluia. Et souvent, ce qui se passe, vous savez quoi ? C'est que Dieu complique les choses. Ah ouais, ça c'est Dieu. Juste pour vous dire, j'en parlais hier avec Yvan et Nathalie alors qu'on était au coin d'une table. Depuis quelques années, nous rêvions avec notre épouse, avec mon épouse, d'être propriétaire. C'est tellement légitime d'être propriétaire. Vous savez, en temps de crise, investir dans la pierre, ce serait bien. Puis un petit appartement, et puis ceci, et puis cela, vous comprenez, hein ? Puis peut-être des enfants, puis on se projette, etc., etc. Et on a commencé à prier, à dire « Seigneur, on avait tellement l'appartement, on n'a pas d'argent !» Ça, c'est normal. À chaque fois que tu veux faire quelque chose avec Dieu, c'est souvent on commence sans argent. Hein. Et donc, je commence à prier Dieu, à lui mettre au courant de ma situation financière, comme s'il n'était pas au courant, mais je lui rappelais à Dieu combien j'étais pauvre. Et puis, Seigneur, et on essaye d'épargner de l'argent, on met de l'argent de tous côtés, puis chérie, il faudrait que tu ailles faire les courses à Lidl, et puis on tu comprends, hein, Carrefour, Lidl, t'en as deux fois plus pour le moitié prix, en tout cas. On essayait de trouver des solutions, puis chérie, puis on essayait de trouver des solutions, etc., etc. Et un soir, je vous le promets, un soir, on priait, et il y a comme une parole de Dieu qui me disait, demande à ton proprio s'il veut pas vendre l'appartement où vous êtes. Et je disais à Elisa, ben ouais, peut-être ce serait bien, on devrait chercher ailleurs et tout, c'est trop bien. Moi, on est à Issy-les-Moulineaux, c'est tellement cher Issy-les-Moulineaux, puis on n'a pas l'argent, puis on n'a pas ceci, puis on n'a pas cela. À chaque fois, je lui disais ça. Et elle me disait, et on était là en train de prier, il y avait des petites bougies, je m'en souviendrai toute ma vie. Et tout d'un coup, ma femme, souvent, et vous savez quoi les gars, quand vous entendez pas Dieu vous parler, écoutez votre femme. Ça peut marcher des fois, en tout cas. Et ma femme, elle est comme inspirée de Dieu. Vous savez, des fois, il y a comme, il faisait nuit, mais il y avait comme de la lumière qui venait sur moi, en tout cas. C'était... Et puis elle dit, tu sais quoi, je crois que si tu le veux, cet appartement, Dieu va te le donner. Je fais, c'est vrai, chérie. Oh. Et tu le reçois de Dieu. Elle me dit, écoute, c'est, je sais pas, Dieu me parle, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que Dieu te le donne et tout. Et, oh, et moi, alors, qu'est-ce que je fais? En tant que bon croyant, je mets toute l'église à prier dessus. Eh, tout le monde, là. On prie pour l'appart et tout, etc. Tout le monde. Et tout le monde prie et tout. Et ça devient le sujet national dans l'église de prière. Toutes les mamies à l'église, tous les gens, alors l'appartement, on prie, on fait foi à Dieu, etc. Et puis je commence à regarder, tu sais, auprès des banques, combien on peut emprunter. Alors j'estime l'appartement à combien il pourrait être acheté. Et puis 320 000 euros. Waouh ! Nous, on regarde avec nos salaires, qu'est-ce qu'on pourrait acheter en 230 max, là. On s'endette pendant des années. Et puis, j'appelle le proprio, puis je dis, écoutez, le proprio, on 230 000 euros, ce serait le max. Il dit, ok, j'accepte. Quoi? On a, le premier miracle est arrivé. Et là, j'arrive à l'église, et tu sais, je rythmais là, comme le journal Le Monde, je rythmais l'église des nouvelles, tu comprends? Je vais dire, le proprio, il a accepté de nous faire ça, et toute l'église, on continue de prier, jusqu'au moment où je commence à solliciter les banques. Et là, c'est une autre partie de plaisir, hein. Et les banques, alors tu sais, ils te regardent et eux, ils veulent pas tes rêves, tu comprends? Ils veulent pas ton avenir et ma promotion, puis peut-être dans 5 ans, mes projets, ce serait de faire ça. Eux, ils s'en foutent. Eux, c'est qu'est-ce que t'as dans ton compte? Qu'est-ce que tu gagnes chaque mois? CDD, CDI, ça va pas faire. Puis tu vois la dame quand elle est en jeu. Et on commence à monter le dossier et j'ai sollicité 10 banques. Et à chaque fois, non, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, vraiment, j'ai... Puis tout d'un coup... Écoutez, j'aimerais tellement vous partager ça. Dans tout ce temps-là, Dieu me transformait. Est-ce que tu me crois, Jo? Ben, Seigneur, je te crois, mais la banquière, elle n'est pas d'accord avec toi. Est-ce que tu me crois? Et puis tout d'un coup, mon épouse a une pathologie un petit peu particulière. Puis la dame, elle me dit, non, on n'assurera pas votre épouse. Non. Et vous savez quoi? Au bout d'un moment, j'y croyais pas. Et j'ai manqué de foi. Je dis, bon, peut-être que Seigneur, tu veux pas cet appartement et peut-être que ce sera un autre et j'ai fait le deuil de cet appartement-là et tu nous le donneras pas et c'est fini. Et tout d'un coup, j'appelle le proprio, je dis non, c'est mort, on n'aura pas l'argent et tout. Il m'appelle et il dit non, continuez. Peut-être que je vais vous baisser le prix. Quoi? Eh, déjà que tu nous faisais un cadeau, mais alors là, tu vas fort. continuez, monsieur Valbon, continuez. Ne vous relâchez pas. Un inconverti qui m'encourage, ça, Dieu est dedans. Wow. Et j'ai continué. Et il y a 2 semaines, hallelujah, une banque m'appelle. Elle me dit, c'est bon, on vous suit. Et je vais signer cet appartement la semaine prochaine. Hallelujah. Wow. On est proprio. Wow. C'est cool dans les temps de crise. Mais qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? J'ai pas d'argent. Je veux dire, humainement, tout nous disait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous croyez dans ce que Dieu vous dit? Et volontairement, les choses se compliquaient. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu ne me rends pas une promesse genre accessible? Non, ça se compliquait. Et les banques me disaient non, 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 non. C'était terrible. Ma foi déprimée. Et là, j'ai appris une chose. C'est que quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Alléluia. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un désespoir que nous vivons, qui nous amène à chercher Dieu. Vous savez quoi, les amis? Quand Dieu vous fait une promesse, il est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Dieu vient au moment précis, au moment où vous vous baissez les bras, vous n'en êtes plus, c'est à ce moment-là où il vient. Ça, c'est la signature de Dieu. Dieu œuvre dans l'impossible. Mais lorsque nous croyons que Dieu est le Dieu de l'impossible, qu'est-ce que vous... Écoutez bien ceci. Lorsque vous croyez que Dieu œuvre dans l'impossible, quand il y a une situation possible, il ne viendra pas. Lorsque la situation est impossible, il vient, il pointe son nez et il agit. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez commencer à faire lorsque votre foi est grande? Vous allez chercher des situations impossibles. Est-ce que vous comprenez? Vous allez chercher des situations qui sont mortes, où on ne peut plus rien faire. C'est à ce moment-là où ça va vous passionner pour voir Dieu agir dans l'impossible. Mais ça, c'est Dieu. Et je termine avec ce point-là. Il faut plus d'intimité pour une obéissance. La foi, écoutez bien ceci mes amis, mais c'est que la foi est profondément liée à l'intimité que je peux avoir avec Dieu. Pour la simple raison, c'est que je ne fais pas confiance aux gens que je ne connais pas. Si vous n'êtes pas proche du cœur de Dieu, si vous n'entendez pas sa voix, cette intimité-là, vous n'allez pas lui faire confiance. Parce que cette intimité-là n'est pas là, n'est pas présente. Vous n'allez pas faire confiance. Si vous allez faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais lorsque tout va mal, c'est à ce moment-là où vous allez passer au plan B. Et le plan B, c'est notre chair qui prend le dessus. Le plan B, c'est Dieu n'a pas fait quelque chose, c'est moi qui prends les commandes. C'est ça que Satan veut vous faire faire. Écoutez bien les amis, quand Dieu vous fait une promesse, Satan ne veut pas que vous mettiez votre foi et laissez Dieu agir. Satan veut que vous soyez vous dedans, et que vous agissiez comme avec votre propre chair, que vous fassiez des actions humaines qui vont parfois retarder Dieu. Est-ce que vous entendez Dieu? Dans l'intimité, vous allez découvrir sa volonté, vous allez découvrir tellement de choses que Dieu veut faire avec vous. Et c'est Jésus dans Jean 17, verset 21, il dit « Je te demande qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un Père ». Qu'il soit un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ainsi qu'il soit un comme toi et moi. Et Jésus se répète plusieurs fois. Qu'il soit un, qu'il soit comme toi et moi. Jésus, il était la manifestation parfaite de l'amour de Dieu incarné sur terre. Mais vous savez quoi? Le secret de Jésus, il dira dans Jean 5, verset 19, le Fils de l'homme ne peut rien faire par lui-même. Je vais vous choquer, mais il faut que vous l'entendiez. Jésus n'avait sur terre aucun pouvoir. Jésus ne pouvait guérir personne. Jésus ne pouvait pas ressusciter les morts. Jésus ne pouvait pas guérir l'aveugle. Humainement, la Bible nous dit, il était humain comme nous. Ce n'était pas un homme avec des super pouvoirs. Jésus se plaçait dans la volonté du Père. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est, Mais écoutez bien ceci, je vous donne un joyau. Jésus se mettait, il agissait uniquement par ce que Dieu faisait. Et à chaque fois, on le voit dans la Bible, Jésus leva les yeux au ciel. Jésus, et cette intimité qu'il avait avec Dieu, à chaque fois qu'il voyait Dieu faire quelque chose au ciel, il l'amenait sur terre. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que si vous vous placez dans ce que Dieu veut faire, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de miraculeux. Mais Dieu veut faire des choses avec vous au travail. Dieu veut faire des choses avec vous ici à Créteil. Dieu a un plan ici pour vous et maintenant. Et là, je vous parle prophétiquement en tant qu'église, en tant que communauté. Qu'est-ce que Dieu veut pour Créteil? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Je vous parle en tant que corps, mais je vous parle en tant qu'individu, en tant que personne, frère et sœur mature dans cette église. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire ici et maintenant? Est-ce que vous entendez Dieu? Vous savez quoi, si vous allez voir le maire de Créteil, croyez-moi, si vous lui posez une question, c'est quoi la situation de Créteil et qu'est-ce que vous voulez faire? Il a une idée sur tout, mes amis. Hein, vous pouvez demander au pasteur Yvan, croyez-moi, quand il croise le maire il a des projets, le maire il voudrait faire ça, le maire il voudrait faire ceci, cela. Il a une idée sur tout. Si vous allez au conseil régional de la région, ils ont une idée sur tout. Ils veulent faire des choses et des projets. Mais Dieu qui est surnaturel de toutes choses, Dieu qui est au-dessus de tout, quels sont les projets qu'il a pour cette église? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Est-ce que vous l'entendez? Et quand on regarde l'exemple de Jésus, Jésus était humainement capable de faire beaucoup de choses avec son intelligence, son expérience. Mais il se refusait toujours pour faire la volonté de son Père. Et un jour, en fait, si Jésus ne développait pas ses bonnes idées, Jésus était complètement dans une soumission totale à son Père. Tout le temps. Vous savez quoi? Vous avez des bonnes idées. Dans votre vie, vous pouvez faire plein de choses. Mais est-ce que vos bonnes idées sont les bonnes idées de Dieu? Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande? Vous regardez la vie de Jésus, Jésus aurait pu faire plein de choses sur terre. Moi, quand je lis les évangiles, il y a plein de choses que Jésus n'a pas fait. Il aurait pu ouvrir un orphelinat. Il aurait pu partir à Buenos Aires. Et il y avait des Indiens peut-être à cette époque-là. Pourquoi il n'a pas pris le bateau Christophe Colomb, évangélisé, prêché aux Indiens? Jésus, il n'a jamais quitté Israël. Mais la Bible nous dit, il parut afin de détruire les œuvres du diable et il a fait tout ce que son père lui demandait de faire. Mes amis, vous savez quoi? J'ai une parole de Dieu pour vous. Si vous faites ce que Dieu vous demande, vous allez gagner du temps. Souvent, vous savez quoi? Mais là, je vous le dis, mais je vous parle tellement avec amour et tout mon cœur. Moi, j'ai fait plein de choses que Dieu m'a pas demandé de faire. Mais je les faisais pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand je les faisais, je dis, oh Seigneur, je fais ça pour toi, Seigneur, je fais ça pour toi. Et j'étais un petit peu comme l'apôtre Pierre, vous savez, l'apôtre Pierre qui jette ses filets, qui jette ses filets, qui jette ses filets, qui pêche jamais un poisson. Jésus arrive et il fait, attends, tu devrais essayer ça. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets et il y a une pêche miraculeuse. Les amis, faites ce que Dieu vous demande. Alléluia, il y a un miraculeux. Il y a un miracle derrière ces choses-là. Hier, on a passé super un temps de qualité avec Pasteur Yvan, avec Nathalie. On parlait de diverses choses. Et alors que Yvan, je pensais à ça ce matin, alors qu'il me faisait visiter la maison, qu'est-ce qu'ils ont commencé à mettre en place, etc., etc. Et c'est tellement cher. Et en fait, l'illustration qu'il y avait sur mon cœur est celle-ci. Imaginez que j'arrive chez le Pasteur Yvan et puis qu'il me dit, écoute, avec mon épouse Nathalie, on va partir en vacances. On s'en va. On te confie notre enfant, notre bien, notre fils unique, le bien le plus précieux sur terre. On te le confie, occupe-toi-en avec ta femme. Il n'y a pas de problème, partez tranquille. Sauf que pendant qu'Yvan est en vacances, pasteur Yvan, qui prend une semaine de vacances, moi, dans ma tête, j'ai une bonne idée de sa maison, qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, juste en face, en fait, il y a deux petits studios où Jeff et Igor sont là-bas. Donc moi, si on me devait donner autorité sur sa maison, j'irais, bon, Jeff, Igor et tout, etc. Moi, j'ai une idée, il faut que vous quittez les lieux. Donc, je les jetterai dehors. Et puis, son enfant, son gamin, vu qu'il fait, il crie tout le temps. Hey! écrit tout le temps, je le prends, je le mets en vente aux enchères sur eBay. Avec l'argent que je récolte, je développe une idée fantastique. C'est en fait, et là où étaient Jeff et Igor et tout, c'est deux studios magnifiques, mais en fait, ce que je ferais, c'est un poulailler à un cochonnier, tu vois. Un élevage de porc, mais bio, tu sais le truc. Et je mettrais une pancarte dehors au bon cochon de Créteil pour développer de l'évangélisation. Et en fait, mon idée, ce serait de faire des dégustations de jambon aux gens qui passent et leur parler de l'amour de Dieu. Ce serait génial, wow! Tu vois, et puis, est-ce que je ferais, alors que je fais un poulailler, un élevage de porc dans le jardin, peut-être dans sa maison aussi, je repeindrais, je ferais un espèce de bar. Moi, j'aimerais ça, un bar. Ce serait cool, puis je casserais les murs, puis tu vois, je sortirais le canapé, enfin, je peindrais en violet et en mauve. Une semaine plus tard, Yvan rentre. Et il voit ça. Et là, un électrochoc, il meurt et tout. Et il viendrait vers moi et il me dirait, mais paniqué, imaginez votre pasteur paniqué, transpirant. Qu'est-ce que t'as fait? Et moi, vous savez ce que je dirais? J'ai voulu bien faire. C'était une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait, écoute, ne réfléchis plus. Quand tu veux faire quelque chose, consulte-moi, demande-moi. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous avons comme idée et que nous faisons au nom de Dieu que Dieu ne nous a pas demandé. Et ce qui est terrible, c'est que si vraiment on posait la question sur les goûts de Dieu et comment tu trouves ça, il dirait absolument pas, je n'aime absolument pas ces choses-là. Sauf que, s'il va avant de partir en vacances, il me dit, tu sais quoi? Qu'est-ce que je peux faire si je le consulte? Si je lui pose juste la question, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse en ton absence? Est-ce qu'il y a un service que je pourrais te rendre, hormis garder ton petit enfant? Et dire, bah, écoute, j'aime bien m'asseoir, j'aime bien lire ma Bible, il y a un fauteuil, en fait, il y a un problème, il y a le pied qui est cassé, et puis voilà. Et c'est vrai qu'il y a une fenêtre, elle ferme mal, et puis s'en va en vacances. Et moi, durant les vacances, pendant une semaine, alors que je suis chez lui, que je squatte la maison, la seule chose que j'ai faite, c'est de réparer le pied de la chaise et de réparer la fenêtre. Ben vous savez quoi? Quand il va rentrer de vacances, il sera très très content parce que j'ai réparé un pied de chaise et une fenêtre. C'est pas grand chose, vrai? Mais j'ai fait ce que lui m'a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Je vous invite simplement à fermer vos yeux. Qu'est-ce que Dieu vous dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Quelle est sa volonté? Je parle de Dieu, j'évangélise, je bouge, alors que Dieu parfois voudrait que je me taise. Je m'agite et je cours quand lui est calme. Je me repose tout le temps et je dors quand lui voudrait agir et sa compassion voudrait se déverser. Je me tais lorsqu'il voudrait que je parle, et je parle trop lorsqu'il voudrait que je me taise. Qu'est-ce que Dieu peut faire, voudrait faire avec vous? Mes amis, est-ce qu'on peut se mettre simplement devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Seigneur, pour toi? Alléluia. Je voudrais juste qu'on ferme nos yeux, on passe un temps avec lui. Seigneur, viens, viens maintenant ici, Jésus. Je te prie, ô Éternel, de parler à nos cœurs. Viens, parle-nous, Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur. Qu'est-ce que tu nous dis, Jésus? Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur.
ta présence. C'est mon désir. Entendre ta voix, c'est mon soupir. Alléluia, Seigneur, c'est mon désir. Avoir ton cœur en moi, voici mon désir. Seigneur, c'est notre désir, Jésus. On veut entendre ta voix, on veut croire à tes paroles et à tes promesses. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis sur ma vie, Jésus? Quelles sont tes promesses pour moi? Donne-moi de les écouter, donne-moi de les croire, Jésus. Que cette prière soit pour chacune, pour tous ensemble. Alléluia. Je voudrais appeler des gens qui veulent augmenter leur foi en ce que Dieu est capable de faire. De croire Dieu, de l'écouter et de faire ce qu'il nous demande de faire. De ne pas être agité, de ne pas courir, mais simplement de faire tout simplement ce qu'il nous demande. Si ce message vous a parlé et vous voulez mettre comme votre cœur à sa disposition, là où vous êtes, je vous invite à vous lever à votre place et vous dire: Seigneur, me voici devant toi, Jésus. Juste vous lever et vous abandonner devant Dieu. Dire: Seigneur, me voici à tes pieds. On va répéter cette phrase ensemble. Vivre en ta présence, c'est mon désir. Avoir ton cœur en moi, c'est mon soupir, Jésus. Oh, oh, vivre en ta présence, c'est mon désir. C'est mon voir ton cœur en moi, oh, c'est mon soupir, c'est mon soupir. Écoutez ta voix, écoutez ta voix, c'est mon désir, c'est mon désir. Faites-le comme une prière devant Dieu. Entendre ta voix, oh, c'est mon désir. Une dernière fois, vivre en ta présence, comme une prière, abandonnez-vous à lui. C'est mon entendre ta voix, entendre ta voix, c'est mon soupir. Jésus, Jésus.
Est-ce qu'on peut tous se lever ce matin? Dépendre de Dieu dans la vie, c'est formidable. Et je vais demander à Vincent, Jennifer et à leur bébé de venir tout de suite sur le devant. Parce qu'on va présenter un petit bébé au Seigneur. Et c'est pour ça que je vous demande à l'église de vous lever.